ne sais pas si on va ouvrir la discussion avec le public. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a vraiment peu de temps parce qu'à 21h, la fondation va fermer. Et peut-être on pourra...
Tu m'as montré pas arrêter.
Et 13, c'est juste qu'après, on n'aura plus de temps de parler et d'être ensemble.
Moi, je vais juste, si c'est possible, ajouter un mot sur cette question de transgression, parce que je dirais que c'est aussi peut-être une réserve que j'ai pu avoir moi personnellement, peut-être en raison de la génération à laquelle j'appartiens et pour laquelle le terme de transgression avait pas auprès de laquelle ça n'avait pas tellement d'écho en fait, parce que on était tellement dans la liberté que la question de la transgression ne se posait pas. Et j'ai le souvenir que, évidemment, après la sortie de La Vie Sexuelle, parce que j'étais justement française, beaucoup de journalistes me posaient la question de mon rapport à Bataille. Et ma réponse, c'était toujours que de ce point de vue-là, Bataille ne m'avait pas intéressée. Et d'autant moins, alors aussi, que cette notion avait été tellement systématisée. On avait bâti presque une théorie sur cette question de la transgression, que bon, peut-être aussi il y avait un phénomène de rejet, mais c'est surtout que nous vivions, j'ai vécu un érotisme qui ne passait pas par la transgression, et je rappelle ça parce que en fait ça a presque été une question de débat entre moi et d'autres intellectuels peut-être plus âgés et pour qui cette notion de transgression était au contraire centrale, voilà, qu'il n'y avait pas d'érotisme et sans transgression, oui. Mais c'est à débattre.
Je pense que si quelqu'un va avoir une question, pourrait peut-être la poser directement aux intervenants, à Thomas, à Arnaud, à Catherine. Et j'imagine que aussi dans le public, il y a certainement un de vos voisins et un des contributeurs de Cahier. Je pense qu'il y a beaucoup. Il y a Jean-Christophe Bailly qui souhaiterait.
Non, c'est juste une remarque sur l'utilisation qui a été au moins 2 fois sur 3 du mot daté. Ce qui n'est pas daté n'existe pas. Dès lors qu'on fait quelque chose, comme aujourd'hui, on est le 21 ou 22, je ne sais plus, mars, hein, si c'est le 22 en plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais
une remarque qui pourrait bientôt être datée.
Oui, bien sûr. Mais, et donc, ce n'est pas un argument. Et par exemple, au moment où on parle du rapport de Bataille à Lascaux, il faut se représenter l'ignorance totale dans laquelle était le monde, y compris le monde savant, par rapport à l'art paléolithique. Aujourd'hui, il y a des discussions. Aujourd'hui, n'importe quel doctorant se permet de juger Bataille en ne l'ayant même pas lu. Mais c'est un surgissement, Lascaux, trouvé par des gamins, etc. Et avant, le gars qui avait trouvé Altamira, tout le monde savant lui avait rionné. C'est l'art paléolithique, la peinture paléolithique, c'est une invention du XXe siècle. Et on a été obligé de raconter l'histoire de l'art et même l'histoire des hommes autrement. Et Bataille, par exemple, c'est pas sa faute s'il est mort bien avant qu'on découvre Chauvet, etc. Donc tout ce qu'on a raconté sur l'art paléolithique avant la découverte de Chauvet est daté. Et c'est normal. Et la même chose pour les histoires de transgression. Vous dites, Thomas, ou tu dis, Thomas, le 1928, l'histoire de l'œil, oui. Qu'est-ce qui se passe en 1928, hein? Et c'est où on est en 1928 par la pesanteur morale d'une société, etc. Les surréalistes qui ont essayé de soulever quelque chose, mais ça, c'est nettement insuffisant aux yeux de Bataille, etc. Et pour des raisons qui tiennent à sa configuration personnelle, mais aussi pour des raisons explicitées intellectuellement, continuellement dans sa vie, il pense que justement, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, et c'est pas purement pulsionnel, et ça donne ensuite des théories, même une théorie qui déborde sur l'économie avec la notion de dépense, etc. Et je trouve que peut-être que c'est daté, mais c'est très bien que ce soit daté, et on ne fonctionne qu'avec des choses datées. Mais voilà, et si on veut, c'est daté, mais c'est pas désuet. Voilà. Oui. Oui.
Non, mais tu as absolument raison. Je n'utilisais pas daté dans le sens d'une condamnation ou quoi que ce soit, mais simplement d'un décor, d'une ambiance que je ressentais. Mais bien entendu, il y a des évolutions. Et ce qui était daté, d'ailleurs, le côté très moderne de Bataille change aussi parfois en aspect peut-être anti-moderne, mais au sens positif du terme, si on peut dire. Mais il me semble que Bataille parfois peut être perçue aujourd'hui comme anti-moderne d'un certain point de vue. Mais bon, voilà. Ensuite, c'est effectivement, il y a des variations de réception. Là, je souscris entièrement à ton propos.
Merci. Oui, je dirais juste un mot. Enfin, je ne vais pas le développer du tout. Quand on parle de la transgression, il me semble qu'effectivement, il faut toujours contextualiser. Et ce qu'on a pu vivre dans les années 70, après 68, c'est une chose. Ce que Bataille vivait en 28 avec l'histoire de l'œil, c'en est une autre. Ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on peut appeler aussi un certain retour de l'ordre moral, ça n'est encore autre chose. Alors, ce que je voulais poser comme question, c'est, il me semble qu'on oublie souvent la différence entre permissivité et transgression. Et il y a, dans les discussions sur le péché, Bataille et Sartre, une remarque de Sartre extrêmement intéressante, il dit, mais on a l'impression que pour vous, la transgression, c'est comme boire une tasse de thé. Voilà. Et donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais intervenir pour rappeler un très beau texte de Foucault, qui est préface à la transgression, alors qui est certainement systématique au sens philosophique du terme, mais qui ne l'est pas quand on voit comment Foucault envisage la philosophie ainsi que Bataille. C'est dans l'hommage à Bataille au moment de son décès. Mmh. Voilà, donc c'est un petit peu là-dessus, j'avais envie de peut-être d'échanger aussi avec Catherine Millet sur cette question.
Non, mais
c'était un débat que vous avez connu au moment de votre livre.
Oui, sûr. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je vois pas ce que je pourrais ajouter là. Je suis d'accord dans le sens où je crois que ça a été cette mode de la transgression, ça a été un dévoiement de la notion, en fait. Voilà.
La lumière naturelle de la grotte, est-ce que cela permet de redécouvrir pour un large public un Lascaux, on va dire, originel, et est-ce que cela permet de découvrir du coup la peinture de Lascaux comme une peinture en relief et de sortir de la platitude d'une certaine manière des photos que la lumière un peu violente des photos originales oblige et force?
Bah oui, on est arrivé à Lascaux 4, hein, donc vous savez que l'original est fermé, il y avait d'autres Lascaux, et effectivement j'ai fait l'expérience l'année dernière, bien sûr que c'est l'industrie du tourisme d'un côté, mais aussi effectivement tout l'art du fac-similé, donc ce qu'on peut effectivement très bien voir et saisir, c'est faire l'expérience in situ d'un fac-similé qui ressemble beaucoup. Par contre, même problématique, l'éclairage est la même, et c'est précisément ce que je souhaitais de pointer tout à l'heure, c'est qu'entre l'expérience de l'original à l'époque par cette équipe ou du touriste comme nous aujourd'hui du fac-similé, c'est une chose, mais la transformation en images et en images dans un livre faisait déontologiquement des choses de relief, quelque chose qui ressemble à la peinture. Donc évidemment, pareil, Jean-Christophe, c'était, quand je dis daté, je l'ai mis entre guillemets, et j'ai dit ça peut paraître daté au niveau du contenu, et je trouve également trop facile de critiquer effectivement les hypothèses audacieuses. Le fait que, effectivement, c'est probablement par la photographie, et c'est le médium qui circule le plus, intuitivement ou consciemment, Bataille a connecté cette expérience de l'espace avec l'histoire de la peinture, c'est-à-dire avec les images plates, d'une certaine façon. Et je lis la préface de Skira comme une sorte de mise en alerte aussi sur cette question, et qui dit il y a l'expérience de l'espace, mais il y a aussi la reproduction, elle ne dit pas tout. Il marque cette différence entre l'expérience spatiale et effectivement sa reproduction photographique. Et c'est une problématique vieille du 19e siècle autour de la sculpture de Wölfflin et compagnie, jusqu'à aujourd'hui évidemment, et accentuée encore par la circulation. Après, on est rentré dans une problématique touristique dans l'expérience de Lascaux. Je pense que là, l'éclairage, il est très bien fait, mais bien évidemment, est-ce que ces œuvres, si on les appelle œuvres, sont perceptibles de cette façon-là, ou est-ce qu'au contraire, le noir ou la petite lampe d'huile n'est pas justement le médium idéal pour percevoir juste une partie de ces choses-là.
Alors, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que ça fait un moment que... Enfin, je vous ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Et il se trouve que... Voilà, moi, j'ai eu la chance de visiter le vrai Lascaux. Et en vous écoutant parler, en regardant les photos de bataille, d'ailleurs, qu'on a dû publier dans Rare Press, j'essayais de rappeler mon souvenir. Et je me disais, mon souvenir ne correspond pas à ça. Je vais peut-être vous étonner, mais mon souvenir, c'est un souvenir d'espace. Bien sûr, j'ai vu les peintures, bien sûr, elles m'ont absolument fascinée, mais mon souvenir, c'est que j'étais dans un espace et j'étais, alors pour reprendre des mots qui correspondent à l'art contemporain, j'étais dans un environnement. J'étais, parce qu'en fait, ce qui frappe lorsqu'on rentre, alors pour ce qui est de l'éclairage, c'était... un éclairage assez fort. Il y a un dispositif électrique qui fait que on rentre dans cette salle comme on rentrerait dans une cuisine, quoi. En fait, c'était éclairé comme dans une cuisine. Bon, mais surtout mon souvenir, et c'est pour ça que j'étais troublée par les photos où on voit qu'il faut passer dans un boyau comme ça, les rochers approchent très près des visiteurs là. Moi, mon souvenir, c'est que j'étais dans un espace qui était relativement vaste. Et pourquoi j'ai cette impression, j'imagine, c'est parce qu'il faut imaginer que les parois sont entièrement couvertes, recouvertes. Donc, vous êtes dans un environnement et la sensation que vous en retirez, c'est une sensation d'espace. Donc, sur place, même avec cet éclairage très fort, vous ne le réduisez pas à de la peinture. Et moi, de la peinture au sens... du tableau, comme on le voit dans les musées, et comme ensuite c'est reproduit dans des livres. D'ailleurs, est-ce qu'il y a à se poser la question là, moi, je crois qu'on s'est intéressé à Lascaux, qu'on l'a intégré dans l'histoire de l'art via le texte de Bataille, entre autres, parce qu'on élargissait aussi la notion de l'art, on élargissait la notion de la peinture. On n'était plus dans une définition de la peinture comme une image plate, encadrée et limitée. On était déjà sorti de cette définition de la peinture. Et puis, si vous poussez votre raisonnement jusqu'au bout, c'est pas des audioguides qu'il faut distribuer aux visiteurs des musées, c'est une petite lanterne un bougeoir, parce que en fait, quelles sont les peintures, toutes ces peintures qu'on voit dans les musées, elles n'ont pas bénéficié de la lumière qu'on leur donne aujourd'hui. Donc ce que vous dites de Lascaux, on peut le dire de toute l'histoire de la peinture jusqu'à l'invention de l'électricité. Donc en fait, il faudrait tous visiter les musées dans de bonnes conditions, si je comprends bien, avec une petite bougie à la main. Donc je ne sais pas si c'est pas un peu de la sophistique quand même de raisonner comme ça.
C'était pas du tout mon raisonnement, mais c'est bien une question qu'on se pose en histoire de l'art aussi, ce qu'on fait quand on met un tableau dans un musée qui était dans une église. Donc je veux dire, c'est une vieille problématique, mais j'ai parlé plus tôt de la question photographique.
Il faut balayer cette problématique, La peinture, c'est le Lascaux aujourd'hui, ou Titien, ou n'importe qui, ou Manet, c'est nos contemporains, c'est ce que nous en faisons aujourd'hui. On les voit à notre façon, et voilà. Moi, je ne crois pas qu'il faille se préoccuper de ça.
Bon. En tout cas, Bataille ne fait pas l'unanimité.
Non, c'est pas Bataille.
C'est à partir de Bataille. Bon, peut-être on va, comme ça, clôturer ce panel et on va pouvoir être un peu ensemble, peut-être. Et je voulais juste, pour terminer, dire, parce qu'il y avait cette question de spécialité, être spécialiste de Bataille. Personne ne veut pas être spécialiste de Bataille. Il y en a certainement, mais je me dis que finalement, quand Bataille devient un objet d'étude, il y a quelque chose d'essentiel de Bataille qui s'échappe, qui d'un coup n'est plus là. Et l'idée de ce dictionnaire était aussi de faire vivre les auteurs avec leurs propres pensées, et Bataille est uniquement un point de départ ou un stimuli qui permet de renouer, stimulus, de renouer avec quelque chose de plus vivant, donc de donner la vie. Et je voulais aussi dire tout simplement que c'était une aventure extraordinaire de faire ce dictionnaire, de travailler avec tant de personnes, certains que je n'ai jamais vus, que je vois ce soir, certains avec qui me sont très proches. Et je pense que pour nous deux, c'était quelque chose d'inédit. Et nous voulions vous remercier très chaleureusement pour tout le travail, pour tout votre don que vous avez donné de vous. Et voilà, merci beaucoup.